Vous écoutez France Culture.
Comme tous les vendredis dans Questions d'époque, c'est l'actualité des nouveaux médias et les questions qui nous posent Place de la Toile avec Thomas Baumgartner. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Au programme de Place de la Toile, à 11h50, la chronique hebdomadaire de Bruno Patino. Aujourd'hui, une rencontre à Monaco. Dans quelques minutes, notre dossier où il sera question de la nettique. Nous nous demanderons ce que c'est que cette éthique du net que certains appellent de leurs vœux, quelles en sont les règles et le champ d'application. Et au-delà, nous nous demanderons si les nouveaux médias, les nouveaux moyens de communication ne posent pas des questions inédites à la morale telle qu'on la pense depuis des siècles. Mais tout de suite, quelques nouvelles du cyberespace. Alors, première actualité, c'est une histoire qui a lieu en deux temps. Alors, la première partie de cette histoire a lieu en 1993. Katie Bigot, qui vit à Wagny, dans le Nord, va enregistrer une des émissions phares de TF1, Le Millionnaire, animé par le désormais oublié Philippe Risoli. Katie Bigot est stressée par les caméras, elle boit donc quelques verres de champagne dans les coulisses avant l'enregistrement. Katie Bigot devient donc ce qu'on appelle une candidate sympathique. Elle a un accent du Nord à couper au couteau, elle rit beaucoup, elle offre un string à Philippe Risoli, elle demande à son mari, Roland Bigot, de faire la roue pendant qu'elle-même tourne la roue. Elle finit par gagner 200 000 francs, ça aurait pu être la fin de l'histoire. Mais il y a quelques mois, soit 14 ans après, une vidéo surgit sur le net. On y voit pendant presque 10 minutes la prestation de Katie Bigot sur le plateau de TF1. Mais la prestation entière, y compris les passages coupés lors de la diffusion. Et là, Katie Bigot est une candidate très sympathique. Elle raconte n'importe quoi, elle rit toute seule, elle raconte sa nuit à l'hôtel avec Roland Bigot, qu'elle traite de lâcheur quand il ne veut pas faire la roue. Elle tanne Philippe Risoli pour qu'il essaie le string qu'elle lui a offert. Elle arrête la roue qu'elle vient de commencer à faire tourner, ce qui provoque l'entrée de l'huissier. Bref, la vidéo connaît un énorme succès, elle est visionnée par des centaines de milliers de personnes et Katie Bigot devient, malgré elle, une star du web français. Non sans conséquence, puisque sa petite fille collégienne est raillée dans la cour de récréation, sa belle-sœur, la belle-sœur de Katie Bigot, est allée jusqu'à la traquer chez le coiffeur pour lui reprocher d'avoir déshonoré la famille. Roland Bigot, son ex-mari, estime que son nom est sali et même le médecin de Katie Bigot s'y est mis, sans oublier les coups de fil anonymes. Katie Bigot est accusée de ridiculiser le Nord tout entier qui n'avait pas besoin de ça. Bref, Katie Bigot et son ex-mari portent plainte contre X et demandent le retrait de la vidéo, retrait qui n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Alors, plusieurs remarques. D'abord, peut-être une question de l'ordre du polar. Qui a numérisé et mis en ligne cette cassette? La Française des Jeux nie que la fuite provienne d'elle et explique que les cassettes non montées sont remises à tous les candidats, donc ça doit être un de ces candidats. Deuxième question, on peut interroger l'appétence des internautes pour cet imaginaire railleur et un peu régressif. Cette vidéo n'est pas la seule de cette catégorie et pas la dernière à circuler. Et puis au-delà, c'est une question qui fait le lien avec notre émission de la semaine dernière où nous parlions de l'identité en ligne, puisque le net a la vertu et le vice de ne pas oublier, de fixer des fragments d'identité de ceux dont il s'empare et de les offrir à une diffusion gigantesque. Katie Bigot n'est évidemment pas réductible à ce que le net montre d'elle, mais sur ça, elle n'a pas de prise, ou très peu, même juridiquement, et doit vivre avec ces 10 minutes d'oubli que même la télévision lui avait pardonné. Alors, télévision toujours, deuxième point d'actualité, Thomas, c'est la grève des scénaristes à Hollywood, dont on entend parler en termes de conséquences, d'interruption de tournage, mais on ne sait pas très bien finalement pourquoi ces scénaristes font grève.
Oui, Xavier, ça fait 10 jours que les scénaristes hollywoodiens sont en grève, c'est les scénaristes de cinéma, de séries télé et de talk show aussi. Ils demandent une revalorisation de leurs droits sur les éditions DVD, sur tous les nouveaux supports qui sont évidemment en plein boom, le téléphone portable, les baladeurs numériques, les sites des chaînes elles-mêmes. Et c'est bien cet aspect-là, ces raisons de la grève qui nous intéressent ce matin dans Place de la Toile, c'est ça qui la raison pour laquelle on se penche là-dessus. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Marjolaine Boutet, qui est historienne, enseignante à Sciences Po Paris est spécialisé dans l'histoire des États-Unis et des fictions américaines et qui participe à un livre collectif qui sort en janvier, l'année des séries 2008, hors collection. Bonjour Marjolaine Boutet.
Bonjour.
Alors avant d'en revenir aux raisons de la grève précisément, peut-être qu'on peut présenter quelque chose qui s'appelle la Writers Guild of America, qui est le fer de lance de cette grève, une sorte de syndicat. Qu'est-ce que c'est la WGA, Writers Guild of America?
Effectivement, il faut commencer par faire un peu d'histoire. Donc la Writers Guild of America a été créée en 1933, mais en fait, et ce pourquoi il y a tant d'inquiétudes autour de cette grève, remonte à 1988, où justement ce syndicat est arrivé sur le devant de la scène.
Il a montré sa force à ce moment-là.
Il a montré sa force en faisant donc grève pendant 22 semaines, donc 5 mois et demi, ce qui a entraîné des centaines de millions de dollars de pertes pour l'industrie du divertissement, c'est-à-dire Hollywood au sens large, aussi bien le cinéma que la télévision. Et donc, on a très peur aujourd'hui, enfin, l'industrie du divertissement a très peur aujourd'hui que cette grève soit de la même ampleur et entraîne, donc on est 20 ans plus tard, des pertes financières absolument colossales, notamment en ce qui concerne la télévision, les recettes publicitaires.
Le poids de la WGA, ce syndicat, est conséquent. Alors vous disiez en 88...
Vous voulez, depuis la grève de 88, ce syndicat a obtenu, et c'est le cas dans l'ensemble de l'industrie du divertissement, pour être employé en tant que scénariste à Hollywood, que ce soit au cinéma ou à la télévision, il faut être inscrit dans ce syndicat.
C'est un passage obligatoire.
C'est un passage obligatoire, c'est comme, si vous voulez, une certification du métier de scénariste. Si on est syndiqué, enfin si on appartient à ce syndicat, si on est reconnu par ce syndicat, c'est qu'on est scénariste. Et donc les chaînes de télévision comme les grands studios n'ont pas le droit de faire appel à n'importe qui pour écrire leurs émissions de télévision. Ils doivent faire appel à des gens qui sont membres de ce syndicat.
Alors les grévistes actuellement sont face à qui en fait? Ils s'adressent à qui?
Alors, les grévistes s'adressent en fait aux chaînes de télévision principalement, puisque le grand enjeu, c'est la revalorisation de leurs droits sur la vidéo à télécharger sur Internet, les éditions DVD, tous les nouveaux modes de diffusion que les chaînes emploient, mais sur lesquels elles ne paient pas de droits suffisants aux scénaristes. Donc il s'adresse aux chaînes de télévision et c'est pas vraiment un conflit entre scénaristes et producteurs, puisque la plupart des producteurs d'émissions de télévision aux États-Unis sont aussi ceux qui les écrivent. Ils sont à la fois producteurs et scénaristes.
Oui, c'est quand cette catégorie-là de producteurs-scénaristes a rejoint la grève, c'est là que les chaînes de télévision commencent à avoir peur.
Absolument, parce que par exemple, on peut parler au-delà des grandes séries que nous connaissons tous, des talk-shows. Par exemple David Letterman, etc., qui sont des talk-shows diffusés le soir et qui sont extrêmement importants pour la promotion des artistes, mais aussi pour la campagne présidentielle, puisque aux États-Unis on est en pleine campagne pour 2008, et ces talk-shows sont écrits par des scénaristes. Vous vous rappelez peut-être de ces images qu'on a beaucoup vues à la télévision et sur Internet de Bernard-Henri Lévy quand il est passé dans un de ses talk-shows, qui fait une blague sur Bush et l'animateur boit à ce moment-là, et quand Bernard-Henri Lévy fait sa blague, il rejette tout le liquide qu'il avait ingéré.
Et tout était écrit.
En pouffant de rire, ce qui fait un effet bœuf évidemment sur le public, mais qui est complètement préparé. Donc ce sont des émissions vraiment scénarisées et très importante pour la promotion d'artistes et d'hommes politiques aux États-Unis.
Alors, sur la question de la grève, en fait, elle était prévue, on la voyait venir depuis un petit moment.
Oui, alors, aux États-Unis, justement, dans l'industrie du divertissement, les grèves doivent être prévues au moins 6 mois à 1 an à l'avance. Donc, par exemple, Hollywood, l'industrie du cinéma, s'était préparée très longtemps à l'avance à l'éventualité de cette grève, en faisant le plein de films qui ont été tournés cet été et au printemps.
Ils en ont pour tenir combien de temps, des films et des séries déjà tournés?
Alors, des films, ils en ont, je pense, pour 1 an. Par contre, ce qui pose plus de problèmes, c'est la télévision, parce que même s'ils ont commencé à tourner un peu plus tôt pour avoir des épisodes d'avance, des séries extrêmement populaires comme Desperate Housewives n'ont plus que 3 épisodes inédits à montrer.
Ouais, donc ça va faire monter la tension.
Donc ce qui veut dire que dans 3 semaines, ABC ne pourra plus diffuser d'épisodes inédits de Desperate Housewives. Et évidemment, ça va se ressentir sur le coût des encarts publicitaires et sur l'audience et induire des pertes financières extrêmement importantes pour ABC. Puisque 30 secondes dans Desperate Housewives, on ne peut pas avoir les chiffres exacts, mais ça se compte en centaines de milliers de dollars au moins.
Marjolaine Boutet, pour parler des raisons de cette grève, il faut peut-être dire que, par exemple, il y a des choses qui existent sur les sites des chaînes de télévision qui sont, par exemple, le téléchargement gratuit des épisodes après leur diffusion. C'est étonnant de parler de ça, d'ailleurs, au moment où, chez nous, la commission Oliven continue ses travaux sur les questions de téléchargement gratuit ou pas, ou comment rendre difficile le téléchargement illégal. Aux États-Unis, les chaînes, producteurs et diffuseurs, mettent en ligne les épisodes au fur et à mesure.
Tout à fait, parce que les chaînes ont bien compris qu'elles n'avaient pas les moyens de contrer Internet et de contrer la diffusion gratuite. Par contre, du coup, elles se mettent à proposer elles aussi le visionnage. C'est du visionnage, c'est pas du téléchargement. C'est-à-dire qu'on garde pas le fichier sur son disque dur, on le regarde simplement sur le site. Mais on peut le regarder gratuitement dès le jour même de sa diffusion à la télévision américaine. Et en échange de cette gratuité, on regarde un très court spot publicitaire qui est placé au début du fichier vidéo et que, évidemment, les chaînes de télévision vendent à prix d'or aux annonceurs. Et c'est précisément sur ces revenus-là que les scénaristes réclament leur part.
Et même d'ailleurs, les chaînes ont un rapport un peu, pas pervers, mais ils ont bien compris l'intérêt qu'elles pouvaient avoir à permettre du téléchargement illégal avant même la diffusion. C'est ce qui s'était passé avec la 6e saison de 24 heures, je crois, dont des épisodes avaient fuité, et on pense que la Fox était responsable de cette fuite, avant la diffusion réelle sur le net, simplement pour créer, à la télévision, simplement pour créer le buzz. Donc les chaînes ont très bien compris l'intérêt qu'elles avaient à ça. Elles passent au-delà des producteurs et des scénaristes, en l'occurrence.
Bien sûr, et ça a été le cas aussi pour tous les pilotes, donc les épisodes, les premiers épisodes des nouvelles saisons cet été, donc qui sont diffusés en septembre aux États-Unis, mais qui ont été disponibles sur le net à partir du mois de juin, et qui, par exemple, pour une série dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle Pushing Daisies, a créé un buzz absolument phénoménal, ce qui a fait que il y a eu 24 millions de téléspectateurs pour la première diffusion de ce pilote, qui avait déjà été amplement diffusé sur le net. Donc on voit bien aussi que la diffusion sur le net n'empêche pas, et même au contraire, peut augmenter les audiences lors de la diffusion à la télévision. Donc je pense que les chaînes de télévision sont tout à fait conscientes de cette synergie qui peut exister entre le net et la télévision. Pour une série comme Heroes, par exemple, vous avez non seulement les épisodes que vous pouvez regarder gratuitement sur le site de NBC, mais aussi des comic books en ligne qui complètent la série et qui permettent aux fans, donc justement, d'en avoir plus.
Merci Marjolaine Boutet de nous avoir éclairé sur ce conflit des scénaristes, cette grève des scénaristes à Hollywood, et aussi sur cette attitude des chaînes par rapport à Internet et dans le cadre plus général des industries culturelles. Je rappelle donc le livre auquel vous avez participé qui sort en janvier, l'année des séries 2008 chez Hors Collection.
Merci beaucoup. Tout de suite, le dossier de Place de la Toile. Notre dossier consacré aujourd'hui à la Netique. Le prétexte est un colloque qui aura lieu demain à la Cité des sciences de la Villette, un colloque intitulé « Journée Netique, nouveaux médias, et politique. Nous reviendrons sur le programme de cette journée et de ce colloque. Mais ce qui nous a intéressé, Thomas, c'est la notion même de néthique.
La notion de néthique, on va questionner ce matin une question qui mérite définition, évidemment. Néthique, éthique, c'est un mot. La néthique est un mot très séduisant. C'est un mot qu'on aime entendre. Il va falloir savoir ce matin ce qu'il y a derrière avec nos invités. À commencer par vous, Natacha Kester-Sémion. Vous êtes une agitatrice du web. Vous faites partie des Humains Associés, qui est cette association et aussi ONG, on va pouvoir en parler, qui est à l'origine de ce colloque qui a lieu demain, qui est le deuxième colloque néthique. Vous vous occupez aussi de mémoirevive.org, si je ne me trompe pas, qui est un vidéoblog. On pourra parler de tout ça. À vos côtés, il y a Jean-Michel Beignet, qui est philosophe. Vous êtes à Paris 4 et vous vous occupez d'un DESS qui questionne ces questions sur le numérique et on reviendra dessus. Et puis André Gunther, vous êtes aussi autour de cette table et vous participez à cette journée néthique demain. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS, spécialisé dans l'image, dans l'histoire de l'image. Et à ce titre-là, j'imagine, vous allez nous apporter plusieurs éclairages sur la question de la néthique à travers l'image, qui est quelque chose de central sur Internet.
Alors peut-être, Natacha Kester-Sémion, on va commencer par vous. L'idée de départ de cette charte néthique, c'est quoi ? C'est l'observation d'une immoralité régnante sur le réseau et la façon dont les gens s'adressent les uns aux autres ou interviennent ?
Immoralité, je ne sais pas si c'est le terme. Disons que c'est seulement les comportements qu'on voit en ligne sur les forums, dans tous les espaces de discussion. Mais il faut rappeler que la néthique repose en partie sur la nétiquette qui a été fondée par les universitaires qui sont à l'origine de l'Internet dans les années 80. Ce sont des principes, j'allais dire, très de base, de savoir-vivre et de faire en sorte que ça se passe assez bien, qu'il y ait une fluidité et des rapports dans les discussions. Donc ce sont des conseils très basiques.
Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de mauvais comportements ou de rapports compliqués qui se passent sur un forum, sur un chat?
Mauvais comportement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des dérives, on ne se rend pas nécessairement compte quand on contribue dans un espace, un blog, un forum ou sur Second Life, etc., qu'en face de vous, il y a des personnes, des vraies personnes derrière leurs écrans, et ça peut, disons, susciter des comportements ou amplifier des comportements. Par exemple, il y a un conseil assez amusant dans la néthique qui recommande de boire un café ou d'attendre d'avoir dormi pour répondre de façon énergique à un correspondant. On ne se rend pas nécessairement compte, en réalité, que c'est un média ou un moyen de communication instantané, universel. Et il y a un certain type de comportements qui sont, disons, impulsifs, parfois même régressifs ou ludiques, qui peuvent avoir une portée. Vous parliez tout à l'heure de Cathy Bigot. Il y a aussi le cas de Star Wars Kids, qui est un jeune adolescent qui faisait une petite danse amusante dans une école, ça a été filmé. Le problème, c'est que cette vidéo n'était pas vraiment à son avantage. Pour tout dire, il était assez disgracieux. Et cette vidéo a été mise en ligne par ses amis. Et elle a été vue des centaines et des centaines de millions de fois sur Internet. Il existe des remixes, etc. Et cette vidéo, ce que ça a produit, c'est qu'il a fait une dépression, il y a eu un procès, etc. Donc on ne se rend pas compte nécessairement qu'on produit un contenu et que ce contenu peut se retourner même contre vous-même.
Alors Natacha Kester-Sémion, là, rapidement, on passe effectivement de la question des codes de relations sociales sur Internet, et effectivement qui sont relativement anciens. Vous disiez que ça datait du début des années 80, la première étiquette, donc avant l'Internet grand public. Petit à petit, il y a eu une étiquette des forums qui a existé. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas écrire en lettres capitales parce que ça donne l'impression de crier. Donc voilà, ça c'est une forme d'idée de code à connaître les uns les autres pour se parler sur le web. Et puis en parlant de cette idée de vidéo, on passe de la nétiquette à la néthique déjà, puisque la néthique, et vous me dites si je me trompe, mais c'est quelque chose qui est très lié au web 2.0, au participatif et au fait que l'interaction n'est plus simplement quelques lignes qui se suivent, mais ça prend plein de formes différentes.
En gros, ce qu'on peut dire, c'est que sur Internet, chacun on devient éditeur de contenu. Donc on produit nous-mêmes des choses, c'est-à-dire des photos, des vidéos, des textes sur nous-mêmes, notre entourage ou pour des raisons professionnelles. Et ça donne une nouvelle portée à l'Internet aujourd'hui. D'ailleurs, le Web 2 repose là-dessus, c'est-à-dire le partage de ce qu'on appelle le contenu personnel. Donc la néthiquette s'appliquait pour les comportements. Et aujourd'hui, c'est disons une réflexion que nous apportons depuis quelques années avec d'autres. C'est une réflexion sur la déontologie, l'éthique de l'information, le fait qu'on soit soi-même éditeur et la responsabilité que cela implique.
Alors quand vous dites « nous », qui est ce « nous » ?
Alors nous, c'est déjà Les Humains Associés, qui est une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est une vraie association dans la vraie vie, humaniste, qui a fait beaucoup de choses, et qui est sur le web depuis 1994, grâce à Philippe Quéot, qui était le créateur du Salon Imagina de Monaco. Et on a développé, au sein de cette association, enfin surtout Tatiana Faria, sa présidente, une réflexion sur le fossé numérique, l'accès à l'Internet, à l'information. Et au fur et à mesure de la création nous-mêmes de nos forums à cette époque-là, on a simplement découvert des comportements, des dérives, et aussi des très bonnes choses, hein, bien sûr. Et on a voulu synthétiser cela sous une forme d'une étiquette. Puis ensuite, on a évolué vers une éthique. Et aujourd'hui, cette communauté regroupe à peu près 300 blogueurs francophones, et ainsi que des partis politiques qui ont adhéré à cette charte pendant la campagne présidentielle.
Mais ça marche comment ? C'est-à-dire que vous avez édicté quelques principes. Est-ce que c'est participatif, déjà, cette éthique ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut chacun ajouter des principes en fonction de ce qu'on a observé ? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, son champ d'application, c'est quoi ? Enfin, comment on y adhère ? Jusqu'où vous voulez que ça aille ?
Jusqu'où ça voudra. Disons que la Netique, déjà, c'est assez simple. Il y a un blog, donc netique.info. Il y a un wiki. Donc, c'est-à-dire un wiki, c'est un site où chacun peut participer, faire évoluer le texte. Donc, c'est totalement ouvert. On peut faire des suggestions, supprimer des choses pour faire soi-même sa propre charte. Mais jusqu'ici, on a eu des personnalisations et des adaptations, parfois pour certains usages, comme des usages politiques ou des institutions qui ont voulu ajouter des choses. Mais disons que la majorité des personnes qui ont adhéré à la charte ont pris la charte en tant que telle, puisqu'elle est assez simple. Et justement, c'est un élément important, c'est de dire qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de discours sur l'éthique, beaucoup de discours sur la responsabilisation, mais sur l'Internet, quand ça vient, disons, des institutions, il y a un rejet. Donc, partant de ce principe-là, nous pensons qu'il doit y avoir une réflexion qui vienne des internautes eux-mêmes, une réflexion des citoyens. Et nous, on promeut plutôt une autorégulation citoyenne, parce qu'on pense qu'une loi, dans bien des cas, sur Internet, n'est ni souhaitable ni applicable en réalité, et qu'il vaudrait mieux qu'il y ait une espèce de réflexion autour des usages. Alors, comment elle s'applique ? C'est-à-dire que chacun a la démarche d'y adhérer de lui-même. Ceux qui n'en veulent pas n'y adhèrent pas, donc ne sont pas concernés, et simplement on décide de soi-même, de se restreindre, entre guillemets, ou de s'appliquer à soi-même des principes et de le proposer à ses lecteurs.
En fait, c'est une proposition, c'est quelque chose qui est en construction, la Netique. Est-ce que c'est un... imaginons, voilà, j'ai un blog, je considère que je fais de la bonne information déontologique, que je recoupe mes sources, enfin, toutes ces conditions-là, on va en reparler, mais est-ce que c'est un label ? Voilà, je peux mettre Netique sur mon blog et c'est un label, ça veut dire que je me reconnais dans la charte en construction que vous proposez.
Oui, enfin, disons que la chose délicate, c'est que c'est vous-même qui vous attribuez la charte.
Question,
donc, en gros, il n'y a personne qui dit que ce que vous dites est vrai. Il faut bien rappeler ça. Mais ce que vous dites pose un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, pour parler d'un usage très simple, aujourd'hui, quand vous tapez le nom d'une personnalité ou même votre propre nom, vous allez sans doute avoir des réponses dans Google. Et vous n'allez pas nécessairement vous rendre compte quand vous contribuez à droite et à gauche sur le net. Vous avez parlé tout à l'heure d'identité numérique, que vous constituez de vous-même une identité numérique, ou plusieurs d'ailleurs, et que cette identité peut vous suivre. Aujourd'hui, on a des adolescents, surtout, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup, qui envoient des vidéos sur une plateforme vidéo, ou des choses pas forcément à leur avantage d'ailleurs, et ou de leurs copains, etc. Et avec leur nom, c'est identifiable. C'est-à-dire que ça peut vous poursuivre toute votre vie. On peut taper votre nom et vous retrouver à 15 ans, puis un jour vous aurez 30 ans, 50, 60, vous aurez des enfants, des petits-enfants, et c'était des choses qui ne sont pas à votre avantage, comme Cathy Bigotte. Ça se pose ce problème-là aujourd'hui.
Mais j'ai vu très concrètement sur netique.info qu'on peut télécharger un petit label Netique. Vous parliez de ces 300 blogueurs qui vous suivent. Il y a une liste qu'on peut voir très clairement. Il y a eu quoi ? Il y a eu un audit sur chaque blog pour être sûr qu'il soit bien éthique ? Ou c'est des gens que vous connaissez, avec qui vous discutez ?
Ah non, pas du tout. On ne fait pas les gendarmes. On considère que les gens se l'appliquent à eux-mêmes. Si vous êtes un blogueur, par exemple, prenons un cas très pratique, vous êtes blogueur, ce sont vos lecteurs qui vont vous interpeller là-dessus. Et sont éventuellement les autres blogueurs qui vont vous rappeler à l'ordre, entre guillemets. L'association Les Humains Associés n'est pas du tout ni les moyens ni la volonté d'être des gendarmes.
Vous l'avez expliqué, il n'y a pas question de loi, il y a question d'autorégulation.
Non, mais même, nous-mêmes, on ne va pas donner les bons et les mauvais points. Justement, l'autorégulation repose là-dessus. C'est que vos lecteurs vont vous interpeller vous-même si vous publiez quelque chose qu'ils pensent ne pas être correct ou vous avez un comportement incorrect. À condition que vous ayez adhéré à la charte, bien sûr, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde.
André Günther, vous êtes demain à la Cité des Sciences pour ce colloque autour de la Netique, le deuxième colloque, le premier ayant eu lieu en mars. Est-ce que vous savez, quelle est votre position par rapport à cette idée de Netique ? Vous leviez le doigt pour intervenir.
Je voulais compléter ce que disait Natacha, peut-être pour dire une chose simple, qui est, je crois, tout à fait dans l'esprit de la... de l'initiative nétique, qui est fondamentalement l'instauration d'une dynamique. Et puis ensuite, la façon dont ces bons préceptes se propagent ou pas sur le net, finalement, l'outil principal, c'est qu'il y a une viralité des bons comportements. C'est très simple, mais je veux dire, ça rejoint aussi l'histoire même de l'éthique et de la morale. Ça s'est passé de la même façon dans le rapport de l'éthique à la pratique. Hein. Tout simplement, dans une conversation, il y a des règles simples qui font qu'une conversation est tenable et efficace. Et c'est pour cette raison-là que ces règles élémentaires se propagent. Et donc, c'est la même chose qui est ici, je crois, attendue et qui est déjà à l'œuvre. En réalité, c'est voilà, au fond, on se sert du principe même du web et de son principe moteur de diffusion, qui est la viralité, pour
la structure en réseau en fait qui permet ça.
Voilà. Et de fait, on le constate. Évidemment, il y a des dérapages. Évidemment, il y a des problèmes. Évidemment, il y a des mauvais comportements. Mais les bons comportements sont viraux et en effet se propagent et finalement se développent. Là. Ce qui est très amusant quand on regarde la liste des préceptes de la charte de la nétiquette ou de la charte de la nétique, dont certains se reprennent l'un l'autre, c'est qu'au fond, bien souvent, ce sont des conseils à des débutants. Ce sont des conseils à des gens qui ne connaissent pas le web et qui le découvrent, ce qui évidemment arrive tous les jours. Mais en même temps, on sait très bien qu'il n'y a rien de plus pédagogique que la pratique du web et qu'on apprend très vite ces bons comportements. Il suffit de passer un peu de temps en ligne et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, voilà. Là encore, il y a des choses très simples qui s'imposent à nous pour pouvoir rester en relation avec les autres et tenir un dialogue intéressant.
Et vous avez remarqué sur les sites ou les blogs, les forums qui ont adopté cette charte, vous avez remarqué une amélioration du comportement parce que c'est quand même le but.
Je pense que la personne qui choisit de mettre son blog nétique, en principe, en fait, il est nétique déjà avant de le savoir.
C'est ça. En fait, c'est juste la validation de sa propre pratique.
C'est vraiment, il y a un aspect pédagogique, comme le rappelait André. C'est-à-dire qu'on oublie, nous, on était sur Internet en 94, il faut imaginer qu'il y avait 100 000 à peine internautes en France, et on compte parmi les 15 000 premiers sites web de tout l'Internet. On était très peu nombreux, c'était un désert en fait. Là, c'était assez facile de s'entendre sur les comportements vu qu'on était peu. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions, voire des centaines de millions de personnes et on propulse, disons, ces personnes devant un ordinateur, c'est le principal problème, sans leur donner les bases. On ne se rend pas compte, effectivement, quand on met une photo sur Internet, elle sera peut-être en ligne toute votre vie, que vous écrivez quelque chose, ça peut vous poursuivre, etc. Donc, c'est un élément, un média puissant, instantané. Et donc, on peut avoir des pulsions, mais très simples. Hein, c'est que vous êtes tranquillement chez vous et vous ne vous rendez pas compte que vous faites quelque chose qui peut se retourner même contre vous. Donc, il y a vraiment une des valeurs pédagogiques. Et d'ailleurs, la charte ne prétend pas avoir, je tiens à le dire, réponse à tout. C'est très simple. Notre réflexion va un peu plus loin, bien sûr. Mais l'idée, c'est de vraiment coller aux usages, d'être pédagogique et de proposer une réflexion en commun.
Alors, Jean-Michel Beignet, c'est quand même très intéressant pour vous, qui êtes philosophe, tout ce qui a été dit là par Natacha Kester-Semon, par André Gunther, parce que c'est étonnant. Est-ce qu'on a l'impression de voir là l'ébauche d'une forme de morale telles qu'elles ont existé. Natacha Kester-Semon parle de pédagogie, de principes simples, de bons comportements. Et alors, est-ce qu'on est là? Est-ce que finalement, le mot étiquette conviendrait pas mieux peut-être que le mot d'éthique? L'étiquette, c'est quoi? C'est le bon comportement, c'est un savoir-vivre. Ou est-ce qu'on est là vraiment dans l'ébauche d'une sorte de morale propre?
Je crois que ce qui est incontestable, c'est qu'on doit distinguer entre la morale et l'éthique ici. Écoutez, très très rapidement, hein, l'éthique, c'est la tentative pour répondre à la question comment bien vivre ensemble. Alors, comment bien vivre ensemble sur le web? Comment faire en sorte que ce bordel qui est le web s'organise, se stabilise, et comment faire en sorte que chacun puisse s'inscrire dans un système d'attente qui lui permet de stabiliser ses relations avec les autres. C'est ça, l'éthique. Et il n'y a pas besoin, là, de préceptes moraux, il n'y a pas besoin d'une conscience morale, à vrai dire. Je reprends ce qui vient d'être dit concernant l'idée que les bons comportements, eh bien, se communiquent de manière virale, parce que les bons comportements sont les plus efficaces et permettent les meilleurs résultats. Au fond, la charte de bonne conduite dont Natacha parlait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est sinon une espèce de charte éditoriale hein, qui prescrit à chacun, si tu veux être lu, voilà comment il faut que tu écrives. Hein, mais pas de majuscules, soit pas insultant.
Bien lu, si tu veux être bien lu.
Si tu veux être bien lu. Mmh. Bah, oui, mais sur le web, on sait très bien que c'est ça, c'est le bien lu hein, qui sera la base. Il n'est pas question de morale, là. Hein, et j'ai été tout à fait attentif à ce qui a été souligné à l'instant, à savoir que c'est de l'auto-organisation. Hein, qu'on essaie de l'autorégulation, autorégulation citoyenne, disiez-vous, hein, qui doit prévaloir. Or, l'autorégulation, ça ne se prescrit pas. Hein, ça se laisse émerger. Hein. Alors que avoir une posture morale par rapport à tout ça, ce serait avoir des idées éternelles du bien et dire, ben voilà, hein, je vais dicter aux internautes ce qu'ils doivent faire pour être dans le bien. Or, moi, je crois que la morale, on peut peut-être le regretter, le déplorer, mais la morale kantienne, déontologique, elle est caduque. Enfin, elle est en voie de caducité.
Pourquoi elle est caduque ?
Eh bien, parce qu'elle suppose, la morale, un certain nombre de critères, de paramètres qui sont en train de disparaître.
Comme ?
Par exemple, le sentiment de la responsabilité. Par exemple, le sentiment de l'identité. Par exemple, le sentiment de la liberté.
Il est en train de disparaître dans l'ensemble de la société ou dans la forme de présence qu'est
Dans la réseau. Forme de coprésence que définit le cyberespace. Hein. Le sentiment d'identité qui prévaut dans le cyberespace n'est pas celui d'une identité substantielle, celle d'un cogito cartésien qui serait lesté d'un certain nombre d'idées éternelles, de vérités éternelles, etc. L'internaute, il se définit essentiellement comme un passage, comme un flux. Hein, son identité, elle est toujours de l'ordre du processus, de l'évanescence. Hein, vous le disiez vous-même, l'identité numérique, on a plusieurs identités numériques. Hein, cette identité, elle n'émane pas de l'individualité que l'on est, mais finalement, c'est l'environnement, c'est le contexte qui nous la constitue. Ça constitue évidemment un changement considérable eu égard à la représentation de la morale que nous nous faisions jusqu'à présent.
Mais cette idée de l'internaute qui passe, finalement, il y a certains penseurs du web qui sont en train d'imaginer l'homme connecté, c'est-à-dire que la règle sera la connexion et l'exception sera la déconnexion. Est-ce que à ce moment-là, dans un cadre d'un futur possible comme ça, une idée morale peut revenir sur le réseau ? Vous dites, la responsabilité disparaît, l'identité disparaît. Et si on était toujours connecté,
je pas dit qu'elle disparaissait, qu'elle se transformait. Hein, ça n'est pas pareil. Vous entendez dire assez fréquemment que finalement, dans le cyberespace, chacun d'entre nous, derrière son écran, n'est guère plus important qu'un neurone. Hein, la planète se transforme en un cerveau planétaire, et chacun d'entre nous n'est qu'un neurone. Être un neurone, c'est être humble. Hein, un neurone est toujours remplaçable. Hein, un neurone, bon, meurt, et puis un autre renaît. Et un neurone n'existe que parce qu'il est en connexion. Hein, effectivement, nous sommes chacun des commutateurs, de simples commutateurs, et on peut effectivement déconnecter hein, et mourir hein, de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un individu qui se pense comme un neurone de la planète ?
C'est triste.
Hein, et comment se laisser convaincre par des règles morales hein, qui supposent un sentiment de la volonté, un sentiment de l'identité, une certaine estime de soi, hein, si nous nous résignons à n'être jamais que des neurones dans la planète. Alors, Joël de Ronet avait répondu à cette question à la
Qu'est-ce
fin de son livre « L'homme symbiotique ». Il dit les neurones de la planète que nous sommes doivent satisfaire à ce qu'il appelle, de manière un peu jargonnante, l'art de la subsomption. L'art de la subsomption, c'est la faculté que nous aurions les uns et les autres de consentir à n'être justement que de simples neurones contribuant, collaborant...
À une intelligence globale, en fait.
Voilà, collaborant à cette intelligence collective ou au fonctionnement global de ce cerveau. Hein, donc, c'est pas très loin de certaines préoccupations d'écologistes hein, qui vous disent la même chose. Hein, la deep ecology vous dit à peu près la même chose. Vous n'êtes rien, vous n'êtes guère plus que le premier végétal venu ou le premier vermisseau venu, hein, mais quand même, parce que vous êtes là, parce que quelque chose se passe à travers de vous, eh bien, il y a la biosphère.
C'est la fin des humanismes.
Ah ben ça, assurément. Hein, alors le sentiment de responsabilité là-dedans, bah, si vous n'êtes qu'un neurone et si on vous dit que finalement vous n'existez que dans l'interdépendance généralisée, allez situer votre responsabilité. Allez vous imaginer que vous êtes l'initiateur de quelque action libre que ce soit. Mais non, bien entendu pas. Hein. Votre liberté, elle est celle que vous autorise le surfing, elle est celle que vous autorise l'éphémère. Hein. Et puis, bah, comment vous étonnez après qu'il y ait tant de bouddhistes parmi les internautes? Ils vous disent, oui,
vous avez
bien
des statistiques.
Oh oui, enfin des statistiques, non, parce que je n'ai pas le fétichisme du chiffre. Hein, mais je rencontre beaucoup de gens qui nous disent, la pratique d'Internet me confirme dans le bien fondé des trois vertus cardinales du bouddhisme, l'impermanence, hein, l'interconnexion et la vacuité.
Mais alors l'internaute qui voudrait résister à cette tendance-là, à être avalé dans une intelligence globale et qui ne voudrait pas être bouddhiste, il déconnecte. Ou alors est-ce qu'une manière de résister, ce serait d'aller contre une charte génétique, par exemple?
Oh, la charte, excusez-moi, Natacha, mais la charte, ça me paraît bien, ça me paraît sain, parce qu'il y a aussi une pratique très, 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 très concrète et utilitariste d'Internet. Et là, de ce point de vue-là, c'est très bien. C'est un outil formidable qu'Internet. Et ce serait dommage, effectivement, de lui tourner le dos. Mais simplement, il ne faut pas se payer de mots. Hein, entendons-nous exactement sur ce que nous voulons dire lorsque nous imaginons une éthique universelle qui viendrait stabiliser les comportements des internautes à l'échelle de la planète. Ne nous payons pas de mots, hein, sachons être résolument pragmatiques, hein, édictons des chartes éditoriales et faisons en sorte d'utiliser l'instrument le plus efficacement possible.
André Günther.
Oui, je crois que je rebondirai très volontiers sur votre dernière phrase, ne nous payons pas de mots. Je pense que l'une des préoccupations que soulignait Natacha tout à l'heure, et qui est à la fois simple et très importante, et qui permet de resituer un peu cette discussion, si vous voulez, sur... Bon, il ne faut pas non plus confondre l'identité en général et l'identité en ligne. Natacha est quelqu'un qui a une existence en ligne très nourrie et très diverse, et on la remercie beaucoup. Néanmoins, moi qui te lis et qui te connais en ligne depuis longtemps, je ne sais rien de ta vie. Je ne connais pas ta vie privée. Je ne sais pas si tu es libre à dîner ce soir. On en parlera après.
C'est pas un site de rencontre. On va
recentrer le débat.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc là, il n'est pas question de confondre l'identité d'un individu et son existence en ligne. C'est à peu près comme si on disait que la rubrique de Jean-Michel Apathy sur RTL est l'ensemble de son existence. Nous savons tous que c'est faux. Et la réalité, ce sur quoi Natacha met le doigt, c'est la question de la publication. Exister en ligne, c'est publier, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'être un éditeur, un journaliste, un écrivain. Et le problème, effectivement, des ados, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont face à eux, face à leur propre image, quand ils mettent en ligne un certain nombre de contenus, ce qui revient à une attitude de publication. Et c'est ça qu'il faut leur rappeler, c'est ça qu'il faut leur expliquer, et il faut leur expliquer qu'en faisant ces gestes-là, ils sont soumis à la loi, ils sont soumis à la loi générale sur les publications, et à un certain nombre de comportements qui doivent être précisés. Ça n'est pas un problème identitaire, c'est un problème de publicité.
Oui, mais là, vous parlez pour des contenus ou des formes d'existence sur le web qui sont mettre en ligne une vidéo, mettre en ligne un post, mettre en ligne... Bon. Ça, c'est une forme d'existence. Mais vous avez une autre forme d'existence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une charte Second Life qui existe ou qui est en passe d'exister. C'est que vous avez une forme d'existence sous la forme d'un avatar. Et pour le coup, c'est plus des questions éditoriales qui se posent. C'est peut-être des questions... Alors, je parle ici des questions qu'on pose là, éthiques. C'est-à-dire que c'est plus des questions éditoriales, puisque vous n'êtes pas en train d'éditer votre propre avatar ou éditer un contenu. Vous êtes en train d'avoir une forme d'existence sous une autre forme que vous-même. Et là, la question qui se pose, c'est à quelle éthique ou à quelle morale est soumis mon comportement quand je suis sous la forme d'un avatar. Est-ce qu'on est dans une sorte de morale du personnage de fiction? Parce qu'après tout, on peut se dire qu'un personnage de fiction, il a le droit de tuer, d'être immoral, et il ne sera pas condamné pour ça. En même temps, il y a un écrivain derrière, et on sait que la question de la responsabilité de l'écrivain par rapport à son personnage de fiction, elle n'est pas réglée. Nicolas Joyce Gorlin et Rose Bonbon ont été condamnés. Il y a une polémique autour du dernier livre d'Alain Robbe-Grillet. Enfin bon, voilà, ce n'est pas réglé cette question. Donc où en êtes-vous par rapport à ça, Natacha Kester-Séméon?
Vous posez un problème, c'est, je dirais qu'il touche à la notion plutôt d'anonymat déjà. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait qui vous êtes sur Internet? Est-ce que vous avez une ou plusieurs identités? Et après, il y a la notion de vie privée, vie publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sphères se mélangent. André, prenez mon cas comme exemple. Dans mon cas, effectivement, je fais quand même assez relativement attention à ce que je publie, parce que j'ai assez conscience de l'importance du net. Vous trouvez des choses sur moi qui datent d'il y a très, très, très longtemps. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde qui ne se rend pas compte. Sur Second Life, ou sur les métamondes, disons, plus largement, ce qui passe, c'est que tout dépend de la valorisation que vous voulez avoir de votre identité. Il y a des personnes qui vont agir tout à fait anonymement avec une autre identité virtuelle, ou même dans Second Life, où ils ne parlent absolument pas du vrai monde. Vous ne pouvez pas leur parler de la télévision, de la radio, ça n'existe pas dans Second Life. Et il y a aussi d'autres personnes qui agissent dans plein d'autres sphères, dans ces métamondes, qui, eux, agissent en leur propre nom, ce qui est mon cas dans Second Life. Je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer non plus cette idée-là. C'est que derrière un pseudonyme de blogueur, d'un contributeur de forum de Second Life, c'est la même chose, ce sont les mêmes problèmes. En plus, dans Second Life, on va éditer du contenu. Les personnes créent des objets, créent des éléments. Et si on croit, comme c'est le cas des humains associés, que l'avenir du web, c'est le web en 3D, de toute façon, les problèmes qui se posent sur le web aujourd'hui seront les mêmes qui se poseront amplifiés sur le net.
La question de la néthique dont on parle ce matin dans Place de la Toile, la question de la néthique a connu un tremplin particulier pendant la campagne présidentielle. On va en reparler demain à ce colloque néthique à la Cité des Sciences. Mais dans un premier temps, demain, il est question de déontologie des nouveaux médias. C'est à cette table ronde, André Günther, que vous participez, aux côtés de quelques journalistes de métier, dont Sarah Daniel, par exemple, du Nouvel Obs, Samuel Laurent du Figaro, et puis Benoît Raphaël du Post.fr, donc le site qui a été lancé, participatif, collaboratif, lancé par Le Monde au mois de septembre. André Günther, est-ce qu'il y a, sur la question de l'image, puisque c'est votre spécialité, c'est votre métier de réfléchir à l'image, un problème d'éthique, de néthique, d'éthique sur Internet concernant l'image, de confiance par rapport à l'image?
Il y a des problèmes spécifiques. Simplement, je voudrais d'abord dire une chose, parce qu'effectivement, c'est intéressant de faire le rapprochement avec le monde du journalisme. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que la préoccupation déontologique, de façon générale, elle est très présente sur le net, il faut bien le dire. Et l'initiative Néthique en est un exemple, mais de façon générale, en particulier du côté des blogueurs historiques ou des blogueurs influents, il y a de très bons comportements et une réflexion de longue date sur ces questions qui, à l'évidence, semble très importante parce que tout le monde est conscient de la puissance du réseau, mais aussi parce que, tout simplement, le réseau qui est un petit peu le dernier arrivé dans la cour de récréation est sous surveillance de tous les autres, et en particulier des médias, des grands médias, qui
eux-mêmes avaient leurs problèmes.
Voilà, la discussion d'aujourd'hui en est un bon exemple, mais je veux dire, le réseau n'existe pas comme ça dans l'air, donc il y a d'abord une surveillance très, très attentive des dérapages et dérives éventuelles d'Internet, de sorte qu'au final, on a tout de même une autocorrection souvent très rapide et très efficace, parfois beaucoup plus que dans d'autres médias. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le meilleur levier de déontologique de la publication sur Internet, c'est son horizontalité, c'est-à-dire le fait que tout le monde est placé sur le même niveau. Et donc, au lieu d'une relation hiérarchique où quelqu'un du haut de la pyramide transmet une information vers le bas sans que jamais on puisse remonter vers la source et critiquer, modifier l'information, voilà, disons dans le schéma classique, une information, une fois qu'elle est publiée sur une feuille de papier et qu'elle est partie en librairie, vous ne pouvez plus rattraper ça. On peut faire un correctif dans une autre édition, mais la faute reste. Sur le net, premièrement, on peut toujours modifier, et deuxièmement,
tout le monde est au même niveau, c'est-à-dire que la discussion, elle s'effectue entre blogueurs et entre lecteurs par l'intermédiaire des commentaires avec les billets. Donc, la puissance de correction, elle est très importante, et ça, c'est un phénomène dont Wikipédia, par exemple, est un exemple formidable. Moi, je suis toujours très étonné de la virulence de la critique sur Wikipédia, alors qu'au fond, ce que montre Wikipédia, c'est l'efficacité de l'autocorrection dont aucune entreprise éditoriale ne peut avoir l'équivalent. Donc, voilà, il faut vraiment avoir conscience aussi de la force de cette préoccupation déontologique sur le réseau et de l'efficacité de cette correction. Alors, pour en venir aux images rapidement, il y a effectivement des choses spécifiques, par exemple. Un problème qui, je pense, serait intéressant à ajouter à l'anéthique, c'est la question des faux mots-clés.
C'est que sur
les vidéos sur Dailymotion ou les photos téléchargées sur Flickr, pour augmenter votre audience, vous allez mettre des faux mots-clés. Et ça, c'est un phénomène qui a été, par exemple, très...
Oui, vous mettez sexe alors que vous avez
exactement.
Une vidéo alors, où vous êtes en train de réciter un poème.
Voilà, c'est
disons... Ou l'inverse.
Donc ça, c'est un problème classique qui est un spam de tags, sur lequel il faudrait là aussi se pencher pour édicter un certain nombre de principes simples. Mais néanmoins, on voit bien qu'on arrive assez rapidement à un problème qui est, je dirais, la gestion du second degré. Et ça, c'est un problème aussi typique d'Internet, parce que l'humour est aussi une dimension qui est très présente. Et on a eu récemment le cas, il y a 2 semaines, de cette image, de cette fausse photographie de Nicolas Sarkozy en présence de George Bush, montée sur une petite valise rouge.
Qu'on trouve sur votre blog.
Délicieuse image, absolument. Qui s'est donc effectivement avéré être un montage.
Assez grossier, non.
Oui, alors écoutez, je m'y suis laissé prendre.
C'est une photo de loin, en fait.
La qualité des images sur Internet, ça, c'est un autre problème intéressant. Mmh. C'est que la qualité technique ne permet pas, évidemment, une expertise très poussée. Mais donc, cette image... Alors, c'est un cas intéressant. Ce n'est pas exactement une intoxication. C'est une blague qui a mal tourné. C'est une blague qui a pris effectivement assez vite les contours de l'intoxication, parce que au fur et à mesure des reprises, le contexte initial où il était assez clair que c'était pas effectivement une image d'information mais une blague potache, s'est perdu, de sorte que au bout de 2 ou 3 reprises on pouvait effectivement lire ça comme une information. Alors, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que la correction a été extrêmement rapide, puisqu'en moins de 24 heures l'information, la contre-information a circulé aussi vite que l'image, et ensuite cette image a continué à circuler, mais comme un fake, comme une blague, et pas du tout comme une image d'information. Donc ça prouve encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Mais l'autre problème, on voit bien, c'est que si on dit, si on édictait une règle dans une charte pour dire ne produisons pas d'images manipulées sur le web, évidemment, on fermerait la porte à la possibilité même du second degré. Il faut imaginer quelque chose de plus nuancé et qui puisse s'adapter au véritable comportement, parce que moi j'imagine bien que demain aussi je pourrais faire une blague de cet ordre, c'est amusant et ça fait partie aussi du jeu. Bon, alors comment est-ce que je peux, corriger ou nuancer ou donner l'information, peut-être avec 24 heures de décalage, ou en jouant un petit peu sur les possibilités techniques du web, pour arriver à ce qu'il n'y ait pas méprise et à ce qu'il n'y ait pas intoxication. Pour l'instant, il faut constater qu'il y a, donc si vous voulez, cet exemple mis à part, et qui est donc un exemple ambigu, mais il n'y a pas eu encore d'exemple d'intoxication proprement dite à partir d'une image venant du web. Il faut que ça continue.
C'est très intéressant parce que à travers cette question de l'image, vous posiez aussi la question de l'humour et du second degré. Alors ça pose une question qui est double, parce que c'est la question du corps, de l'engagement du corps dans les rapports interpersonnels. C'est-à-dire, par exemple, l'ironie, elle peut passer beaucoup plus facilement par la voix, par le regard, par une attitude corporelle, par l'écrit, par le sourcil, évidemment, grand lieu où se loge l'ironie. Mais c'est aussi, et ça, je voulais vous poser la question, Jean-Michel Beignet, parce que depuis le début, on tourne autour de ces questions de net, morale ou éthique. Et est-ce que Internet nous informe pas sur l'hyper-nécessité ou disons l'hyper-prise en compte qu'il y a eu du corps jusqu'ici dans la morale classique? Or, là, on est dans un lieu d'absence du corps.
Oui, absolument. C'est le travail d'un certain nombre de neurobiologistes aujourd'hui, il met en évidence le fait qu'il n'y a pas de comportement moral qui ne soit pas incarné. Hein, notre raison qui peut nous dicter les bons comportements a besoin également des manifestations de l'émotion qui se traduit par le cœur. Alors de fait, lorsqu'on est dans le cyberespace, on est dans un espace qui fait l'élision du cœur.
Ouais, donc qui empêche certains modes de communication qui sont évidents entre deux personnes, type effectivement l'humour, enfin qui sont évidents, disons qui sont plus faciles, mais c'est aussi une question de haute morale.
Ah ben assurément, hein. C'est pour ça que je pense qu'effectivement la question de la morale sur Internet ne peut pas se poser de la même manière que celle qu'on peut poser lorsqu'il s'agit de la morale sur une agora, dans une communauté où la communication non verbale joue un rôle considérable, où je peux toujours tempérer, nuancer les propos que je tiens par des mots grâce à des gestes, etc. La grande brutalité de la communication sur Internet ne tient pas seulement au fait qu'on est toujours dans la réactivité, donc on s'interdit cette délibération, cette latence.
De l'échange épistolaire, par exemple.
Qui exige l'échange épistolaire et les relations morales d'une manière générale. Ça n'est pas seulement cette réactivité, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas le corps pour temporiser. McLuhan disait qu'il y a les médias chauds et des médias froids. Un média chaud, c'était un média qui ne s'adresse au récepteur que par un seul canal sensoriel. La radio, précisément, est un média chaud parce que on ne s'adresse aux auditeurs que par le canal de l'oreille. McLuhan disait Hitler n'aurait jamais pu être Hitler s'il y avait eu la télévision dans tous les foyers, parce que justement le fait qu'on s'adresse et à la vue et à l'ouïe démultiplie en quelque sorte l'effet, l'impact du message, en l'occurrence du message nazi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là avec Internet, le fait qu'on ne s'adresse que à la vue, en l'occurrence, il y a quelque chose d'éminemment brutal qu'on ne peut pas nuancer.
Il faut quand même comprendre ce que vous dites par le constat qu'il y a une inventivité aussi formidable d'Internet. Et par rapport à la question de l'ironie, tout de même, l'invention consiste les smileys, mais c'est précisément, c'est une réponse précise éditoriale, si vous voulez. Oui. Vous vous souvenez, on a quand même inventé les guillemets. Oui. Enfin, je veux dire, toute cette histoire, c'est la même chose, la ponctuation. Donc, c'est une nouvelle ponctuation inventée par Internet. Et moi, je constate qu'aujourd'hui, les smileys, je m'en sers dans mes emails. Alors qu'au départ, c'était... C'est très utile. Cette inventivité, il faut pas l'oublier. Et il y aura des réponses qui sont en train d'être élaborées. Je pense que l'Anétique est une initiative qui participe de cette reformulation, de cette reconfiguration.
Rapidement, Natacha Kester-Séméon, demain, à la Cité des Sciences, à Paris, deux thèmes principaux pour évoquer l'Anétique.
L'intérêt de cette journée, c'est qu'elle réunit des blogueurs, des journalistes les uns en face des autres qui vont discuter ensemble, mais ainsi que des politiques dans une autre table ronde qui vont nous dire comment ils utilisaient l'Anétique pendant la campagne présidentielle, mais surtout par rapport à l'avenir, parce qu'ils sont responsables quand même de centaines de milliers de militants. Est-ce qu'eux-mêmes doivent faire un peu de pédagogie auprès de leurs militants et des citoyens? Mais surtout, le mélange blogueur et journaliste est intéressant, parce qu'on a peu parlé, c'est la responsabilité des blogueurs. Juste deux choses, si je peux reprendre ce qui a été dit. C'est d'abord pour rappeler qu'effectivement, il ne faut pas confondre morale et éthique et ne pas faire de procès d'intention, comme ça a été le cas d'une petite minorité de blogueurs sur l'idée que l'Anétique serait un politiquement correct, etc. Nous, on respecte beaucoup la liberté d'expression, donc effectivement, l'humour en fait partie, ça c'est très clair. Seulement aussi pour dire que par rapport à Wikipédia, une anecdote amusante, c'est que nous, notre association a été supprimée de Wikipédia suite à une attaque d'un blogueur qui a considéré que certaines choses ne lui plaisaient pas. Il a lancé une attaque organisée et donc on peut supprimer des contenus également s'ils ne vous conviennent pas, ce qui pose d'autres problèmes puisque notre association, paraît-il, n'existait pas. Donc c'est pour dire aussi que on donne beaucoup de pouvoir à des éditeurs sur Internet aujourd'hui, mais il y a une réflexion aussi à avoir sur la responsabilité et aussi l'impact de Google. Ça serait peut-être le cas d'une autre journée.
Voilà. L'Anétique.info. L'Anétique, c'était le sujet aujourd'hui de Place de la Toile. Merci d'avoir été avec nous, Natacha Kester-Séméon, Jean-Michel Beignet et André Gunther.
Comme tous les vendredis dans Place de la Toile, la chronique de Bruno Patino, qui est là ici en personne, en chair et en os, on est très contents. Alors votre chronique aujourd'hui, c'est une rencontre à Monaco, ce qui laisse augurer du pire, Bruno.
Oui, du pire, enfin, nos invités ont parlé d'un colloque qui se tient demain, sans doute sous le froid à la Villette. Moi, je vous parlais d'un colloque qui a eu lieu à Monaco. Il était plutôt ensoleillé, même s'il faisait aussi un peu froid. Non, la semaine dernière, ce qui a eu lieu à Monaco, c'est le Monaco Media Forum, un colloque de 3 jours qui, sous l'égide de Publicis et de la Principauté de Monaco, a tenté de rassembler l'univers des médias digitaux. On y croisait à la fois des grands patrons de médias tels l'américain Barry Diller ou encore James Murdoch, le fils de Rupert Murdoch, ou des représentants de très grandes sociétés de l'Internet tels un dirigeant de Google. Les médias, cependant, n'étaient pas les seuls représentés. La publicité, les télécommunications étaient là, mais aussi de très nombreux patrons de start-up, ces sociétés qui développent de nouveaux outils sur Internet et tentent l'aventure de l'innovation. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les propos qui se sont échangés pendant ces quelques jours, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais je voudrais aujourd'hui vous parler d'une toute petite anecdote, enfin en tout cas d'aborder ce colloque sous cet aspect-là, en vous décrivant le comportement des stars de l'Internet que j'ai pu croiser. Car vous l'avez compris, et mon bronzage le prouve, j'ai assisté à ce colloque, et à chaque fois qu'il m'était donné de faire connaissance avec quelqu'un, que je lui posais la question de son lieu de résidence, je me voyais répondre une phrase du type « Bah, en théorie j'habite à Vancouver, ou à New York, ou à Londres, ou je ne sais où, mais en fait, tu sais, j'habite dans un avion ». De nombreux participants, surtout ceux qui étaient totalement immergés dans l'Internet, présentaient l'air pâle de ceux qui volent de pays en pays en posant leurs valises dans des hôtels qui se ressemblent tous. Nombre d'entre eux revenaient de Berlin où avait lieu une rencontre sur le web 2.0 après être passés par Stockholm et San Francisco, tout ça en une semaine, ces autres théâtres de rencontres sur le futur de l'Internet. Enfin, ils passaient de ville en ville et de pays en pays. Alors c'est le propre de ce genre d'événement, me direz-vous, il suffit pour s'en convaincre de lire David Lodge et son tout petit monde qui décrit ces universitaires qui passent de colloque en colloque en tout point de la planète. Toutes les professions ont leurs itinérants. Oui, mais ce qui me semble intéressant là, c'est que ces acteurs de l'Internet, ces entrepreneurs de start-up ne venaient pas là pour faire du commerce, ce n'est pas le but du Monaco Media Forum, il n'y a pas de stand, pas de contrat à signer. Non, ils venaient là, comme en d'autres lieux, pour se rencontrer, échanger des informations, parler. Bref, comme l'a d'ailleurs dit le patron de Publicis Maurice Lévy, ils venaient là pour constituer un réseau et pour faire connaissance. Et c'est ce point que je trouve assez fascinant. Ces princes du virtuel développent une économie fondée sur les réseaux interconnectés, sur les identités virtuelles. Ils construisent peu à peu un monde qui trouble notre notion de l'espace et du temps en nous libérant de ces dimensions dès lors que nous sommes derrière un écran. Ils construisent des outils de communication qui permettent d'envoyer tout type de fichiers dans n'importe quel lieu connecté de la planète, de partager l'information avec les personnes de leur choix en temps réel ou en différé. Ils créent enfin des applications qui permettent de se faire connaître et d'être rejoint dans son ou dans ses réseaux virtuels par les personnes ayant le même centre d'intérêt ou faisant la même chose que. Bref, ils créent peu à peu l'homme numérique dans sa société virtuelle. Oui, ils font tout cela et pourtant, ils veulent se rencontrer de façon réelle et non pas par webcam ou téléphone portable interposé. Ils ont besoin de la salle de réunion réelle, du dîner réel, du contact humain et du partage d'informations préhistoriques, celui qui commence par la poignée de main et l'échange de la carte de visite. Alors ce retour du réel dans sa forme la plus banale me semble rassurant. Au travers de cette anecdote microscopique, j'y vois l'affirmation que le virtuel est une dimension supplémentaire de notre existence et ne remplace absolument pas la dimension réelle et incarnée de nos vies. Développer son existence derrière un écran ne nous prive pas de ce besoin vital d'être de plein pied dans nos vies réelles. Les princes du réseau virtuel, comme je les ai nommés, finalement, ont besoin du vieux colloque traditionnel pour respirer et sentir qu'ils forment une communauté qui n'est pas que virtuelle. C'est d'ailleurs ce type de remarque qu'a fait Jacques Attali dans une intervention remarquée, en ne se fondant pas, lui, sur l'observation anecdotique. D'après Attali, et j'ai tendance à partager cette opinion, le développement exponentiel de la virtualité donne de plus en plus de valeur aux événements réels, où nous sommes physiquement en contact les uns avec les autres. Nous échangeons nos fichiers de musique gratuitement sur le réseau, mais payons des fortunes pour assister à des concerts. Le futur économique des contenus, pour Attali, n'est pas dans leur transmission ou leur partage, qui sont désormais gratuits, mais dans leur capacité à être à l'origine d'événements réels et incarnés. En clair, le futur économique du virtuel, c'est sa traduction dans la sphère réelle. De quoi, en somme, respirer un peu.
Merci Bruno Patino. À la semaine prochaine, vous serez là réellement.
Place de la Toile, c'est terminé. Vendredi prochain, nous serons en direct de Cannes pour les rencontres de Cannes à l'occasion du colloque virtuel et médial au journalisme en sursis. Mais nous inviterons aussi des ingénieurs de l'INRIA et de l'antenne de Sophia Antipolis. Place de la Toile, c'est donc terminé. L'émission était préparée et coordonnée par Yael Mandelbaum à la prise de son Vincent René, réalisation d'Oria Zénith.
Et on se retrouve lundi dans Question d'époque pour l'économie en question. On parlera de pétrole lundi à 11h.